Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon lundi, hein? Jour de rentrée scolaire au secondaire. Est-ce qu'il y avait de la fébrilité dans l'air chez vous hier soir? Chez nous, j'avais pas mes enfants, pour être parfaitement honnête, ils étaient chez leur père, mais je me suis quand même informée. Mes enfants, ma fille qui est au secondaire, avait très, très hâte de retourner, de voir ses amis, parce qu'évidemment, depuis le couvre-feu, les nouvelles mesures sanitaires resserrées, n'avaient plus le droit vraiment de voir ses amis, même dehors, là, parce qu'on le sait, même si tu marches à 2 mètres de distance, la tentation de se rapprocher, même sans faire exprès, elle est là. Donc, les adolescents qui trouvent ça très, très lourd et qui étaient sans doute très, très heureux de se retrouver ce matin. Beaucoup de procédures liées au masque de procédure justement qui va être distribué ou qui a été distribué à compter de ce matin à tous les étudiants au secondaire. Un masque qu'on va changer 2 fois par jour. C'est une très, très bonne affaire là, parce que la gestion des masques en tissu, c'est loin d'être évident. On le fait avec nos enfants du primaire, mais on le sait, là, manipuler ces masques-là toute la journée, à un moment donné, à la fin, ça devient un peu douteux. Là. On est à se demander si le masque en tissu est vraiment efficace. On nous parlait de 2 masques en tissu, par ailleurs, au primaire. J'ai découvert, depuis que c'est recommencé l'école, que c'est plutôt 3. Hein, avec l'hiver, l'humidité, la neige, dès que les masques en tissu deviennent humides, ils sont plus bons à grand-chose. Donc, c'est plus de 3 masques qu'il faut laver à chaque soir. Ça coûte cher. Donc, la distribution des masques de procédure va bon train dans les écoles. Et je me demandais comment les ados allaient accueillir ça, cette mesure-là, qui s'additionne quand même aux mesures qui sont déjà mises en place dans les écoles secondaires. Et pour ceux à qui j'ai parlé depuis le matin, ça se passe bien. Ils me disent, on est content de retrouver nos amis, le masque de procédure est beaucoup plus confortable que le masque en tissu et on se sent plus en sécurité. Parce qu'il y a ça aussi, évidemment, les ados consomment les mêmes médias que nous et consomment aussi beaucoup de médias sociaux. Et avec la montée des cas qu'on a connus, moi j'ai vraiment senti qu'on avait une certaine anxiété par rapport à ce retour en classe parce que justement, on avait cette hausse de cas. Bien que depuis quelques jours, ça va un peu mieux. On est à 1634 cas aujourd'hui. Malheureusement, 32 décès au niveau des hospitalisations, ça baisse aussi. 31 nouvelles hospitalisations. Et je dois dire, parce qu'on va parler de santé mentale un peu tout le long de l'émission, notamment on aura le ministre Lionel Carman à la fin de l'émission, parce que les journées de concertation là, sur la santé mentale qui sont transpartisanes débutent demain. La neige d'en fin de semaine, je pense, nous a fait collectivement le plus grand bien. Hein? D'habitude, on chiale, là, ça ne nous tente pas de sortir notre pelle. Ça nous fait un peu suer quand une tempête de neige s'abat sur le Québec, mais là, j'ai vraiment senti, et je vais utiliser une expression que j'haïs au plus haut point, qu'on embrasse notre nordicité. Pour vrai, il y avait une épidémie, mais dans le bon sens, de bonhommes de neige dans tous les parcs de la ville. Partout au Québec, on voyait ça passer, vos photos de sports de plein air, vos photos de bonhommes de neige. Et ça faisait chaud au cœur de voir ça. Vraiment, ça a fait du bien de reprendre un peu le contrôle sur notre bonne humeur de sortir. Donc voilà, on parlera bien entendu de santé mentale un peu plus tard. Et on va revenir aussi sur la fameuse campagne de publicité qui a fait grand bruit la semaine passée, la campagne de sensibilisation full célèbre. J'en ai discuté un petit peu vendredi à LCN et aussi à l'émission. D'une campagne en particulier, là, une campagne qui était là quand même depuis l'automne, mais image sur un distribuée en fait sur des abribus à Montréal. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Une jeune femme avec un sac en papier brun sur la tête, sur lequel était marqué sexto. Et ce que ça sous-entendait, en tout cas, moi, je l'ai compris comme ça, c'est que, bon, si tu faisais du sexting, si tu partageais des photos de toi sur Internet, ça pouvait circuler contre ton consentement un peu partout et ça pouvait jeter sur toi la honte. Et ça, la honte, c'est mal. Donc, je pense que je suis pas la seule à avoir trouvé le message peut-être envoyé par les organisateurs de cette campagne-là plus ou moins réussi. Ils seront là parce qu'ils tenaient à réagir. On aura l'organisatrice communautaire à la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle qui viendra un peu réajuster le tir. Et évidemment, j'aurai des questions pour elle. Mais revenons sur les élèves du secondaire qui reviennent en classe aujourd'hui. Je le rappelle, je pense que personne l'ignore, qui font un retour avec les masques obligatoires, les masques médicaux. C'est quand même la mesure nouvelle qui a été adoptée par le gouvernement pour cette réouverture. Supposément, une mesure qui va rendre le tout davantage sécuritaire. On en parle avec le docteur Marie-France Reynaud, qui est chef du département de médecine préventive et santé publique du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Docteur Reynaud, bonjour.
Bonjour.
Bon, vendredi, j'ai reçu une lettre de l'école de ma fille, une école secondaire, une très grosse école secondaire à Montréal, l'une des plus grosses en fait, où on nous expliquait un peu grosso modo comment ça allait se goupiller lundi matin, donc ce matin, la procédure, là, vraiment, comment on allait remettre les couvre-visages aux élèves, comment on allait leur donner un sac Ziploc qu'elle allait devoir gérer, 10 masses de procédures pendant la semaine, des élèves aussi qui devront entendre le signal avant de changer de couvre-visage en classe, on leur suggère même de retenir leur souffle, ce faisant. Puis là, je me disais, je regardais ça, puis je me disais, ben, c'est une bonne chose dans une certaine mesure, parce que les masques en dessous, on en a largement discuté, c'est pas tout à fait optimal. Mais je me demandais comment les adolescents allaient prendre cette un peu augmentation de mesures, parce que c'est très, très encadré que ce changement de masque. Mais avant qu'on en vienne là, Dr. Reynaud, j'ai envie qu'on souligne encore une fois que cette initiative du gouvernement de remettre ces masques de procédure-là et de les changer deux fois par jour, ça risque d'avoir des effets directs sur la transmission dans nos écoles secondaires. Là.
Ben, on l'espère. Le masque de procédure est plus efficace que les couvre-visages. Vous l'avez mentionné. Les couvre-visages, on connaît pas vraiment là, l'efficacité de tous les couvre-visages, évidemment, mais on sait dans les études qu'on a pu consulter que les masques de procédure sont plus efficaces que les masques de tissu. Donc, on espère que ça va avoir un effet sur la transmission.
Ben oui, puis en même temps, Dr. Reynaud, la question des masques en tissu puis leur manipulation aussi, du lavage, il faut les laver souvent, il faut les manipuler comme il faut. Donc, le fait d'encadrer le moment où les adolescents vont mettre leur masque et le retirer, ça aussi, ça risque d'augmenter nos chances qu'on ait moins de transmission, non?
Moi, j'en suis absolument convaincue. On va être assuré que les étudiants reçoivent suffisamment de masques de procédure pour faire la semaine. Et puis, on dépendra pas là, de tout un chacun pour l'entretien. Je trouve que c'est vraiment une excellente mesure.
Allez-y.
Oui, ben ça se peut que le premier matin, ça soit un peu difficile, là, puis que, avant que la mesure soit mise en place, ça se trône, mais moi j'ai bien confiance là, que ça va se faire assez facilement.
Ben oui, puis je vous disais tantôt que ça m'inquiétait un peu parce que c'est beaucoup d'étapes. Je me disais, nos ados, mon Dieu, depuis le départ, ils doivent quand même s'adapter beaucoup. L'école a beaucoup changé hein, depuis le début de la pandémie, là. Tout ce dont ils avaient l'habitude a été bouleversé. Et je me disais, bon, peut-être que ça va contribuer, si on veut, à les achaler encore plus, mais force est d'admettre que non, j'ai pas l'impression, Dr. Reynaud, parce que juste avant de vous parler, avant l'émission, je me suis dit, je vais texter ma fille, savoir comment ça se passe à son école. Elle me dit, écoute, ça se passe bien, maman, c'est facile, on se sent plus en sécurité, et surtout, c'est plus confortable, les masques de procédure.
Ah oui. Absolument. Les couvre-visages, là, c'est lourd à porter, c'est suffocant, tandis que les masques de procédure, on les sent pas, c'est vraiment beaucoup plus léger. Moi, je pense qu'on va avoir une meilleure adhésion des masques qui vont être mieux portés, justement, parce qu'ils sont plus confortables et qu'on les oublie plus facilement.
Ben oui, c'est vrai. Puis en même temps, il y a la question des masques quand même qui vont être trop grands, trop petits. On n'a pas tous et toutes le même visage. Ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Ben, chez les étudiants du secondaire, on pense que les masques pour adultes là vont faire une majorité d'enfants, mais d'adolescents. Il faudra peut-être penser à des masques pédiatriques, effectivement, là, pour ceux qui commencent le secondaire. Il y a des tailles plus petites là, qui seraient éventuellement disponibles. On va voir à l'usage si c'est un vrai problème. Si c'est un vrai problème, il y aura une solution.
Est-ce qu'on en aurait suffisamment de ces masques pédiatriques-là? Parce que c'est quand même un enjeu. Je sais qu'il y a beaucoup de parents du primaire qui souhaiteraient que les masques procéduraux se retrouvent aussi dans leurs écoles.
Oui. Ben, la transmission au primaire est quand même moins grande qu'au secondaire. Là.
Ouais.
Les surtout les tout petits, les recommandations, par exemple, là, du CDC américain, met plus de nuances là, dans la recommandation de masques pour les tout petits. Là, ça dépend vraiment de la situation épidémiologique, puis s'ils sont habitués d'en porter culturellement. Les Chinois, les enfants chinois portent plus facilement des masques, sont habitués d'en porter depuis tout petit. Ici, c'est pas nécessairement la même chose. Alors, le primaire, c'est d'autres enjeux. Mais la bonne nouvelle, quand même, c'est qu'on est devenu beaucoup plus autosuffisant en termes de production de masques de procédure au Québec qu'on ne l'était au début de la pandémie, où ça a été un enjeu incroyable là, d'avoir de la disponibilité de masques, même pour nos travailleurs de la santé. Alors maintenant, je pense que s'il y a un marché, on a des entreprises qui vont être capables de répondre.
En même temps, vous me dites que le virus se transmet moins aux primaires, mais ce qu'on peut lire quand même depuis quelques jours dans différents médias, c'est que les variantes qu'on est en train de découvrir de la COVID-19 seraient plus contagieuses chez les jeunes enfants. Ça inquiète les parents.
Oui, je pense qu'on manque encore de données là-dessus. Elle n'est pas encore très prévalente, cette variante-là, ici au Québec, mais on va la suivre. C'est certainement quelque chose à suivre. Mais ce qu'on sait, c'est que les enfants, quand même, variante ou pas, ils sont moins affectés là, par la COVID-19 et ils sont moins malades. Alors, on peut rassurer les parents que les complications graves de COVID-19, ça a été extrêmement rare chez les enfants. C'était des enfants qui avaient des facteurs de risque. Et il n'y a toujours eu aucun décès de COVID-19 au Québec chez les enfants.
Est-ce qu'on peut en profiter peut-être, Dr Reynaud, pour rassurer les parents qui ne veulent pas retourner leurs enfants en classe parce qu'ils ont des craintes? Qu'est-ce qu'on leur dit à ces parents-là? Parce que des parents québécois là, qui ont intenté une poursuite contre le gouvernement du Québec pour que ça soit un peu comme en Ontario, c'est-à-dire qu'on offre l'école virtuelle à tous ceux qui le souhaitent. Parce qu'en ce moment, au Québec, c'est ceux qui ont une condition particulière qui peuvent se revendiquer de cette option-là.
Oui, ben étant témoin dans cette cause-là, je préférerais ne pas la commenter.
Parfait. On va aller sur une autre question. Je veux qu'on se parle des rassemblements, docteur Reynaud, parce que les masques, c'est une chose, mais je pense que ce que nous ont appris les derniers mois, c'est que ce qui favorisait beaucoup les transmissions puis les cas dans les écoles secondaires, notamment, c'était les rassemblements qui avaient lieu en dehors des heures de classe.
Oui, tout à fait. Puis c'est probablement là, le mode principal de transmission à l'école, les rassemblements à l'extérieur des heures de classe.
Puis en ce sens-là, le couvre-feu, est-ce que selon vous, ça va aider?
Moi, je pense que le couvre-feu commence à montrer son efficacité. Et puis beaucoup de parents m'ont mentionné que c'était très difficile pour eux de convaincre leurs adolescents de pas sortir le soir, puis c'était des discussions interminables à ce sujet-là, et que le couvre-feu leur fournit un argument assez imparable, là, que c'est beaucoup plus facile pour eux de leur dire de rester à la maison, étant donné les amendes, la surveillance, l'aspect légal absolument incontournable. Donc, je pense que ça va diminuer les rassemblements. Et moi, je trouve les chiffres des derniers jours assez encourageants là, par rapport à l'efficacité du couvre-feu.
Oui, parce qu'au début, on nous disait peut-être de pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais là, force est d'admettre qu'on est quand même au bout de 2-3 jours où les chiffres sont plus encourageants. Donc, c'est tentant de se dire, ben écoutez, les mesures fonctionnent, là.
Oui, c'est sûr qu'au départ, on comparait avec d'autres endroits où des couvre-feux avaient été instaurés, mais où les bars et les restaurants étaient ouverts. Là. Donc, on se disait que chez nous, ça va avoir un effet supplémentaire. On a déjà fermé tous nos lieux de rassemblement, mais il semble que oui.
Très bien. Dr Marie-France Reynaud, qui est chef du département de médecine préventive et santé publique du CHUM. On se parlait de cette première journée de rentrée au secondaire qui semble se passer très bien. Honnêtement, là, je pense que l'avenue de ces masques procéduraux à l'école, c'était vraiment une bonne idée, c'était une bonne chose. Je veux qu'on revienne peut-être un peu sur le couvre-feu parce que c'est vrai que c'était compliqué pour plusieurs parents. Puis tu sais, quand j'entends des gens dire « Ah, mais les parents, ils ont juste à mettre leur culotte. C'est vous autres qui décidez. C'est vous autres qui empêchez vos enfants ou non de sortir. » À un moment donné, vaccinée, c'est vous qui l'avez, l'autorité. Oui, effectivement, mais en même temps, c'est assez compliqué et complexe d'expliquer à un adolescent qui a la faculté là de s'obstiner en bon français, puis d'expliquer pourquoi c'était correct, voilà deux mois, d'aller prendre une marche à 2 mètres de distance, de voir ses amis au parc. Pourquoi cet été, on a pu voir des amis dans la cour et là, tout à coup, c'est plus correct. T'sais, puis c'est logique, là, dans le sens où les cas s'accumulent, où la situation s'est vraiment dégradée, mais eux, ils suivent pas nécessairement les mêmes nouvelles que nous, font pas nécessairement les mêmes liens. Donc, c'est vrai qu'en ce sens-là, le couvre-feu a énormément aidé et a aidé aussi certains enfants, certains ados à comprendre la gravité de la situation dans laquelle on se trouve. Donc, vraiment, là, à ce niveau-là, je pense que ça va aider parce qu'on le sait, moi, j'en voyais des gangs de jeunes, puis je veux pas jeter la pierre sur les jeunes, là. Pour vrai, là, si ça avait été moi, quand j'étais jeune, qui avait été en situation pandémique, je pense que j'aurais été peut-être la première à vouloir sortir le soir, à vouloir voir mes amis, parce qu'à cet âge-là, on a un sentiment d'être invincible, on a un sentiment, une pensée magique, hein, puis il y en a aussi qui la conservent à l'âge adulte, cette pensée magique-là, par ailleurs, là. Mais c'est ça, je veux pas les blâmer, les jeunes, mais on les voyait le soir, puis on les voyait ne pas respecter la distanciation sociale quand t'es avec des gens. Les 30 premières minutes, ça va, tu te rappelles les règlements, mais là, tu ris, tu fais des jokes, tu veux montrer quelque chose sur ton téléphone, et oups, tout à coup, tu te rapproches, donc c'est une bonne affaire. Et là, les paris sont ouverts. Est-ce que vous pensez que le couvre-feu va se terminer le 8 février tel que prévu? Moi, je vous dis tout de suite, ce à quoi je m'attends, puis j'ai pas la science infuse, c'est un petit jeu auquel on joue là. Moi, je pense que le couvre-feu va peut-être se prolonger un petit peu, mais que certains commerces vont rouvrir. On saura peut-être davantage si les commerces non essentiels vont rouvrir. Je pense pas que les bars et les restaurants vont rouvrir, mais les commerces de service, là, je parle des centres de coiffure peut-être, les trucs d'esthétique où on n'avait pas nécessairement d'éclosion. Est-ce qu'on va aussi repermettre aux magasins de vendre des produits non essentiels? Parce que ça aussi, c'est un méchant problème. Moi, je pense que ça va être un heureux mélange de tout ça le 8 février. On verra.